الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'armée musulmane maintenant s'est installée à la Mecque. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Kaaba. Il avait avec lui Bilal et Oussam. Il a demandé qu'on ferme la porte. Il a trouvé dans la Kaaba des choses, des images de Ibrahim et de Ismaïl qui jouaient avec les jeux de hasard. Il les a détruits. Quand il faisait tawaf al-Ka'ba, il avait son arc dans la main. Il faisait un signe pour chaque statue, et la statue tombe. Donc il a fait tomber toutes les statues autour de la Ka'ba. Il y en avait plus de 360. Et à l'intérieur de la Ka'ba, il y avait des choses. Il a tout enlevé, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il s'est installé à l'intérieur. Et il a fait deux rak'at à l'intérieur de Al-Ka'ba. Et après, il sort, il dit Ya ma'ashara Quraysh, Inna Allah. Donc il fait un discours, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa hazama al-ahzaba wahda, la shay'a qablahu wa la shay'a ba'da, la ilaha illallah wa la na'budu illa. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tout ce que le jahiliya avait mis en valeur, les choses que le jahiliya avait mis en valeur, Si tahta qadami, je l'écrase avec mes pieds. C'est-à-dire que maintenant, la différence entre les gens, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas le rang social, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la tribu, c'est maintenant la foi et la pratique et at-taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. D'ailleurs, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu. Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Tous, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous de la même mère et du même père. Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Et nous avons fait de vous des tribus et des peuples. Pourquoi lita'arafu? Pour que vous entreconnaissiez. Ce n'est pas vous vous entretuez. Ce n'est pas vous ignorez les uns des autres, non, pour se rapprocher. Et ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y ait des peuples et des ethnies et des tribus et les ta'araf. C'est comme ça que l'objectif de l'islam, c'est que les gens s'entreconnaissent et travaillent ensemble. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allah 'alimun khabir. Donc ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé, il dit: إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظيمها وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب. Vous êtes tous de Adam et Adam vient de terre. Donc y a rien pour s'enorgueillir et ne pas considérer les autres. Vous êtes tous pareils. Et le prophète صلى الله عليه وسلم maintenant il s'adresse aux gens autour de lui. Les Mécois sont là. Ces mêmes Mécois qui ont incité à dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tuer ses compagnons, ils ont fait, ben ils sont maintenant sous sa main. Il peut leur faire ce qu'il veut. Il a l'armée autour de lui, 10 000 hommes, donc ils ne peuvent rien faire. Et les soldats parmi eux sont déjà partis. Il y en a qui ont quitté, il y en a qui ont été, comme on a dit, 18 personnes ont été tuées pendant cette conquête. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ya ma'shara Quraysh, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Oh Quraysh, que pensez que je vais faire de vous? Qalu, qu'est-ce qu'ils disent? Akhun karim wa ibn akhin karim. Tu es un frère noble, le fils d'un frère noble. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qala fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Je vous dis comme Yusuf a dit à ses frères: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فانتم الطلقاء. Gardez bien cette phrase, elle résonne cette phrase: اذهبوا فانتم الطلقاء. الطلقاء طليق, c'est quoi طليق? Libre, طليق. D'où le terme طلاق. C'est quoi طلاق? C'est la séparation. Quand une femme se sépare de son mari, elle est طلاق, c'est-à-dire elle est libre. Elle doit se remarier, et, d'accord? At-talaq. Idhabu fa'antum at-talaqa. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est une parole. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout fait pour éviter la guerre. Pour éviter qu'il y ait un bain de sang, il a tout fait sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Donc, il a conquis la Mecque avec quoi? 18 morts. Alors que, normalement, ça c'est... Si les Mécois étaient préparés, il y aurait une guerre qui aurait fait, je ne sais pas, des centaines et des centaines de morts. Voilà, parce que son objectif, ce n'est pas de tuer les gens. Et on va le voir, ces gens-là qui sont devant lui, ils vont devenir les plus grands personnes qui vont propager la religion musulmane. Subhanallah. Ces ennemis d'avant vont devenir les gens qui vont propager sa religion. Abu Sufyan, qui était son ennemi, il va devenir quelqu'un qui va aller faire le jihad loin de la Mecque pour appeler les gens à l'islam, subhanallah. Tu te dis, ça c'est le grand cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si c'était quelqu'un de qui rancunait, qui gardait pour lui et qui prenait les choses pour lui-même, ce qu'on lui a fait du mal, il n'aurait jamais pardonné à ces gens-là. Il aurait dit, toi tu m'as fait ça, toi tu m'as fait ça, toi tu m'as fait ça. Ben, c'est des gens qui ont fait les pires. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Et donc il y avait des gens que le prophète a cité, il dit, si vous trouvez cette personne, tuez-la. Mais quand cette personne vient, Ikrim ibn Abi Jahl,
Ikrim ibn Abi Jahl, c'est le fils de Abu Jahl. Il s'était à l'image de son père. Donc il faisait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète est arrivé à la Mecque, ben, il faisait partie des gens qui ont résisté, qui ont pris les armes contre les musulmans. On a dit qu'ils ont, il y a deux musulmans qui ont été tués. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il part, il quitte. Il quitte la Mecque pour aller s'installer vers Jeddah. Et sa femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle devient musulmane. Et elle demande à Rasulallah, je demande pardon pour mon mari, je vais le chercher. Elle dit, vas-y, s'il vient avec toi, il pardonne. Ben, elle va jusqu'à, je crois que c'est une partie même jusqu'au Yémen. Elle va jusqu'à là-bas et elle ramène son mari avec elle. Et Ikrim ibn Abi Jahl devient l'un des meilleurs compagnons. Hein, il prenait le Coran al-Karim, il lisait le Coran al-Karim. Regardez, l'ennemi du prophète, il prenait le Coran al-Karim, il l'embrassait, il dit « Hada kalam rabbi, kalam rabbi ». Quand il lisait le Coran al-Karim, c'était quelqu'un qui est devenu très pieux. Il aurait pu mort et subhanallah. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelqu'un qui se venge pour lui-même. Il n'est pas là pour sa personne, pour ses intérêts. Il est là pour le bien des gens. Et il avait un cœur grand. Aucun homme politique, aucun homme guerrier a réagi comme a réagi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde. Quand Ali ibn Abi Talib a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maintenant, il est revenu, il est le chef maintenant de la Mecque, Ali lui a dit à Rasulallah, Banu Hashim avait quelques tâches d'honneur pour les Hajj, pour le Hajj. Il pouvait donner à boire et à manger. Et donc Ali dit, Ya Rasulallah, garde la clé de la Kaaba pour nous, pour notre famille, pour Banu Hashim. Hein? C'est un honneur de plus, parce que l'honneur de Hajj et de la Kaaba se partageait entre plusieurs tribus arabes de la Mecque. Et donc, cet honneur de garder la clé n'était pas chez Bani Hashim. Bani Hashim, c'est la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, garde la clé. Garde-toi la clé, comme ça, elle revient toujours à la tribu de Banu Hashim. Avant, ce n'était pas chez Banu Hashim. Uthman ibn Talha. Donc, قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. Aujourd'hui nous avons سقاية, c'est-à-dire nous donnons à boire au حجاج. الحجابة aussi. الحجابة c'est quoi? C'est garder la clé de la Kaaba. فقال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم il a écouté Ali, il a parlé et après il se retourne, il dit أين عثمان بن طلحة؟ أين عثمان بن طلحة؟ عثمان بن طلحة c'est qui? C'est lui qui l'a amené. C'est lui qui garde la clé depuis plusieurs années. Et je vous ai raconté son histoire. Vous vous souvenez quand Uthman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il voulait rentrer à la Kaaba, il l'a poussé. Il a dit non, toi tu rentres pas à la Kaaba, t'as pas. Il l'a poussé. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit un jour je vais rentrer à Uthman. Un jour je vais rentrer à la Kaaba. Et c'est ce jour-là, il lui a rappelé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Uthman ibn Talha lui-même. Et juste pour ce geste-là, il aurait pu lui dire, ça y est, toi je ne te donnerai plus la clé, je donnerai quelqu'un d'autre. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui m'a poussé, celui qui m'a empêché de rentrer dans la Kaaba, amenez-le. Tiens, prends la clé de la Kaaba. Elle est pour toi et ta tribu et ta famille. Khalidatan mukhallada, la yanza'uha minkum illa zalim. Tiens la clé, elle est pour toi et ta famille, Khalid, éternel. Celui qui vous enlève la clé sera un homme injuste. Jusqu'à aujourd'hui, la clé, elle est chez cette famille-là. Jusqu'à aujourd'hui, la clé de la Kaaba, c'est pas le roi de l'Arabie Saoudite qui l'a. C'est la famille, cette famille-là. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens ont peur du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, celui qui vous enlève la clé, va aller. C'est un homme injuste. Donc,
قال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء.
Aujourd'hui, c'est un jour de bir. Le bir, c'est la bonté. Le wafa, c'est quoi? C'est respecter les engagements. Al yawm yawm bir wa wafa. Comme il a dit quand il est rentré à la Mecque, il a dit al yawm yawm al marhama. Aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde. Donc, khudha khalidatan taridatan la yanza'uha minkum illa zalim. يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته. يا عثمان écoutez, عثمان va devenir musulman. إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. Prenez, s'il y a des cadeaux qui sont offerts à la Kaaba, vous pouvez prendre une petite partie بالمعروف, mais la Kaaba doit être honorée. Donc c'est vous les gardiens de la Kaaba. Cette famille jusqu'à aujourd'hui, c'est la famille qui s'occupe et qui a la clé de la Kaaba. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un geste qui va concrétiser l'égalité entre musulmans. Ces gens-là sont encore, ils ont encore le jahiliyya dans leur cœur, n'est-ce pas? Ils viennent de se convertir. Certains parmi eux ne se sont pas convertis. Abu Sufyan s'est converti. Mais d'autres sont encore kuffar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à Bilal, monte sur la Kaaba et fais l'adhan. Et ça, les gens n'ont pas accepté. Subhanallah. Bilal, c'était un esclave. Et comment un esclave peut monter sur la Kaaba? Même les gens qui ont l'honneur ne montent. Donc, les gens n'ont pas apprécié. Les gens, les Mécois, qui viennent de sortir de l'ignorance, qui viennent de. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu écraser cette jahiliya qui reste encore dans leur cœur. Il y a encore de la jahiliya dans leur cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu par le geste. Il y a Bilal c'est mu'adhin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, c'est lui qui fait l'adhan. Ici, c'est lui qui fait l'adhan. Il n'a pas voulu prendre en considération les sentiments des gens qui sont devant lui parce qu'il vient de se convertir. Non. Ça, c'est jahiliya. Jahiliya, c'est tahta qadami, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sous mes pieds. Jahiliya n'a pas de place. Si vous avez ce sentiment de jahiliya, vous devez l'arracher de vos cœurs. Et le prophète l'arrache par le geste. Ya Bilal, monte sur la Kaaba. Il y en a qui ont dit, j'aurais aimé ne pas vivre ce jour-là. Il y en a qui ont dit ça parmi les kuffars de Quraysh. Ah, c'est quoi cette honte? Comment il autorise un esclave de monter sur la Kaaba? Bilal, c'est un homme libre. Et même si c'était un esclave. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Bilal, fais. Et regardez cette petite histoire, Abu Sufyan, Attab ibn Usayy, ou Al-Halid ibn Hisham, ils étaient tous les trois ensemble, là, assis, et regardez Abu Sufyan, ils ont commencé à se. Ah, ça se. Comment ça se fait? Et Attab, il a dit, Laqad akram Allahu Usaydan alla yakuna sami'aha. Allah a fait un honneur à mon père Usayd de ne pas assister à ce moment-là. Subhanallah. Attab ibn Usayd. Donc c'est. Il dit, mon père, Allah lui a fait honneur parce qu'il n'a pas assisté à ce moment-là. Où on voit un esclave sur la Kaaba. Vous voyez un peu le degré de l'ignorance, mais il va devenir un très bon compagnon lui. Fayasma'a ma yaridhu. Donc. Mon père aurait insulté Bilal pour. فقال الحارث أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. الحارث dit, si je sais que c'est la vérité, je suivrai la vérité. Abu Sufyan dit, moi, je ne dis absolument rien. Parce que quoi que je dise, je suis certain que les pierres là, qui sont à côté de nous vont le dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, Abu Sufyan, maintenant il est convaincu que le prophète, il dit même les pierres qui sont à côté, ils vont le dire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on vient de dire là. Et là le prophète arrive. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète arrive devant les trois. Il leur a dit, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Et فقال لهم لقد علمتم الذي قلت. Je sais ce que vous étiez en train de dire. ثم il leur a dit toi tu as dit ça toi tu as dit ça toi tu as dit ça سبحان الله ابو سفيان الى بيان فقال الحارث وعتاب les deux qui étaient pas encore musulmans ils ont اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ils ont parce que le prophète sallam n'était pas là ils ont discuté à trois le prophète arrive il leur dit toi tu as dit ça toi tu as dit ça toi tu as dit ça et ابو سفيان était déjà musulman parce que les autres ne l'étaient pas فنقول قالوا والله ما اطلع على هذا احد حتى كان معنا nous étions là à trois والله personne n'était avec nous pour entendre ce qu'on vient de dire et puisque tu viens de le dire ben, c'est la prophétie hein. C'est, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ دار ام هانئ بنت ابي طالب donc c'est sa cousine sa cousine Umm Han, la sœur de Ali, la sœur de Ja'far. فاغتسل وصلى ثمان ركعات. Donc, il prend sa douche, il a fait 8 rak'at. Et c'était l'heure de Dhuha. Donc certains savants l'ont considéré comme salat al-Dhuha. D'accord? Parce que c'est l'heure de Dhuha. D'autres, ils ont dit salat al-Fatih. C'est une prière pour remercier Allah de la conquête de la Mecque. Umm Hanif, donc elle avait deux personnes chez elle. Elle demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur pardonner parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on tue ces deux personnes. Mais quand Umm Hanif a dit ya Rasulullah pardonne-leur, il leur a pardonné. فقال لها لكنالك. Donc Ikrimah comme on vient de le dire, il part, il fuit jusqu'au Yémen. Sa femme, quand elle est devenue musulmane, elle vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui demande pardon pour son mari et elle veut aller le chercher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit vas-y, va le chercher et il sera pardonné. Wa hasuna islam, il devient un très bon croyant. Ikrima ibn Abi Jahl. Habbar ibn al-Aswad. Habbar ibn al-Aswad, il a fait quelque chose qui a fait énormément de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa fille Zaynab voulait venir de la Mecque à Médine pour la Hijra. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que sa femme vienne. Et Habbar, qu'est-ce qu'il a fait? Sa fille était enceinte, Zaynab était enceinte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a farouché la chamelle. Il est venu pour provoquer Zaynab, provoquer sa chamelle. Et Zaynab, elle est tombée de la chamelle. Elle était enceinte et elle a perdu son bébé. Et beaucoup de savants disent que c'est à cause de ça qu'elle est morte par la suite, parce que deux ans après, elle est morte, à cause de cette chute. Habbar ibn al-Aswad. Et donc, Fafarra Habbar, donc il est parti de la Mecque, mais après, il est devenu musulman, et il est devenu un très bon musulman. Subhanallah, comment Allah guide les gens. ذكر ابن حجر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلال الحارث بن طلاط الخزاعي قتله علي وذكر الحاكم أيضا ممن أهدر دمه كعب بن زهير كعب بن زهير إلى une histoire une très belle histoire كعب بن زهير son père c'est زهير بن أبي سلمة زهير بن أبي سلمة C'est l'un des plus grands poètes. Aujourd'hui, parmi les mu'allaqat, les sept suspendus, les sept poèmes suspendus, c'est-à-dire mu'allaqat, avant, quand il y a un poème qui est magnifique, on l'accroche à l'intérieur de la Kaaba. On l'accroche à la Kaaba. D'accord ? Vous en avez sept. Parmi ces sept, vous avez mu'allaqat Zuhayr ibn Abi Salma. C'est une magnifique âme. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a étudié au lycée. Comme avant. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, elle existe, cette mu'allaqa. Son fils, il s'appelait Ka'b. Zuhayr ibn Abi Salma, il est mort avant l'islam. D'accord ? Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Donc, lui, il n'a pas assisté à l'islam. Mais son poème, il est magnifique. Son poème contient vraiment beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Ra'itu al-manaya khabta ashwa'a man tusib tumidhu. Donc c'est vraiment des poèmes magnifiques. Et donc lui, son fils, il s'appelait Ka'b ibn Zuhayr. c'était aussi un poète, grand poète. Et il disait des poèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dénigrer l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, si vous trouvez Ka'b, ben tuez-le. Donc Ka'b il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il voulait se repentir quand il a vu que tout le monde est devenu musulman, que l'Arabie... Il est venu jusqu'à Médine. Là, le prophète Hassan est parti à Médine. Il est venu jusqu'à Médine. Il a profité de la prière de Fajr. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la mosquée, comme tout le monde, hein, tête baissée, personne ne l'a reconnu. Il rentre, il fait la prière avec les gens, il n'est pas encore musulman. Et après, il se lève, juste après salam alaykum, il se lève. Il dit un poème. Banat su'ad, fa qalbi al-yawm. Le poème, il commence par un style, on appelle ça le ghazal en arabe. Tous les grands poèmes commencent par le ghazal, parler un peu des femmes. Ça, c'est quelque chose que vous trouvez dans tous les poèmes arabes. Et donc, Banat Su'ad, il parle de Su'ad. Donc, et après, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle d'une manière magnifique. C'est parmi les poèmes les plus beaux qui décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour on va le lire, Inch'Allah, si Allah nous donne. Et le prophète sallallahu qu'est-ce qu'il a fait? Il se lève, il avait une borda. Borda, c'est une qamis, hein, qui peut s'enlever facilement. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa borda et il lui a mis sur son. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a appelé le poème? Le poème de Ka'b ibn Zuhayr, on l'a appelé Al-Borda. Al-Borda, c'est-à-dire le cadeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa tunique qui a donné à Ka'b quand il a fait un joli poème. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a ce poème-là, il est magnifique, d'accord. Et que les poèmes, les poètes après, bien après, ils ont commencé à faire des poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont beaux, on les appelle Al-Borda, d'accord. Il y a une récente Borda qui date, mais qui décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que chaque poème, chaque poète, quand il fait son poème sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espère que, comme si le prophète lui a offert sa Borda, même si ce n'est pas physique, mais d'une manière symbolique. D'une manière symbolique. C'est pour ça qu'on appelle ces poèmes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Borda. Voilà comment Ka'b ibn Zuhayr, gardez bien le nom de Ka'b ibn Zuhayr, qui va devenir un bon musulman, un grand poète qui défend l'islam avec. Parce que il n'y avait pas que dans la religion, il n'y avait pas que les guerriers, il n'y avait pas que les Abu Bakr, il y avait aussi Hassan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawah, Ka'b ibn Zuhayr par la suite. Et c'est des gens qui avaient l'éloquence, le verbe, la poésie. La poésie comptait énormément à l'époque. Si tu as un grand poète avec toi, ben tu peux convaincre des gens. Un poème peut déclarer une guerre à l'époque. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que l'arrivée de Ka'b et l'arrivée de Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, c'est un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un grand compagnon. Subhanallah, Allah il donne les poèmes les plus beaux pour décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était, radiyallahu anhu, c'était un homme lâche. Il prenait jamais l'épée. C'est le verbe, sa langue. Un jour, il était avec les femmes, avec sa fille, la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était pendant la guerre contre une tribu juive à Médine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette tribu juive a envoyé des soldats, deux soldats, pour aller agresser les femmes musulmanes qui étaient dans une maison. Sa fille, Hassan, était avec elle. Subhanallah. Hassan, normalement, il est avec les hommes. Ah non, cette fois-ci, il est mangé avec les femmes. Mais il est connu. C'est le verbe et la poésie, c'était le top, mais faire la guerre, c'est pas son affaire. Et c'était sa fille, elle lui dit, Hassan, vas-y, c'est que deux hommes, on sort ensemble. Toi et moi, et les femmes, on va les tuer. Il a dit, non, sortez-vous, moi, je ne risquerai pas ma vie. Non. Sa fille, elle prend un morceau de bois, elle est sortie, elle les a tués tous les deux. sa fille radiallahu anha, elle a tué deux hommes. Et Hassan ibn Thabit lui dit non, c'est pas mes affaires. Ah. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des qualités et chacun il est utile avec les qualités qu'Allah lui a données. Hassan, quand les Mécois ont dénigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a envoyé un poème parmi les plus magnifiques poèmes pour honorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais chacun son rôle. Donc, Wahshi, Wahshi ibn Harb. Wahshi, c'est l'homme qui a tiré et qui a tué Hamza. Radiallahu anhu. On dit, mais ça c'est pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son repentir, mais il lui a dit, si je peux ne pas te voir, ça serait bien. Et Wahshi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, il est parti. Il est devenu musulman, mais il a quitté, il n'est pas venu à la Mecque pour s'installer à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est installé ailleurs. Alors pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il le voit, ça lui rappelle son nom. Hamza n'était pas comme tous les oncles. Hamza, c'est le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son oncle, mais c'est son frère. Ils ont grandi ensemble. Allaités ensemble. D'accord? Allaités ensemble. Donc, c'est son frère de lait. C'est son ami. Et quand il a été tué, ça m'a tellement touché que, en voyant Hawashi, il va se dire il voit son oncle. Donc, c'est pour ça. Hind bint Utbafa, c'est elle qui a commandé le meurtre de. Mais après l'histoire qu'elle a mangé le foie de Hamza n'est pas vraie. Beaucoup d'historiens disent que ce n'est pas vrai, même si c'est dans le film Risala. Mais elle lui a bien sûr a fait des choses avec. Mais elle ne lui a pas mâché le foie. Donc Hind bint Utba est devenue musulmane. Elle est venue cacher. Dans un premier temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regroupé toutes les femmes, il commence à leur faire un discours. Et elle répondait de temps en temps. Et il l'a reconnu par la suite, sallallahu alayhi wa sallam, par sa voix. Donc, toutes ces personnes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Safwan ibn Umayya, wa fudalat ibn Umayya. Safwan ne faisait pas partie des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait tuer, non. Mais puisque c'était parmi les grands de Quraysh, il a fait la guerre, donc il a pris les armes contre l'armée musulmane. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Ben, il est parti. Il est parti à Jeddah, il voulait prendre le bateau pour s'exiler ailleurs. Donc, il a son ami qui s'appelait Umayr ibn Wahb. Umayr ibn Wahb al-Jumahi. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, je vais chercher Safwan. Il est à Jeddah, à 80 km. Je vais le chercher, le ramener. Tu lui pardonnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va le chercher et le pardonner. Vas-y. Et je vous ai déjà raconté une petite histoire entre Safwan et Umayr ibn Wahb. Umayr ibn Wahb, c'est un homme, mais quoi? Il est devenu musulman par la suite. Il avait son fils qui était parmi les prisonniers de guerre à la bataille de Badr. À la bataille de Badr, il avait son fils prisonnier de guerre, ou son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il était à la Mecque, et c'était l'ami de Safwan ibn Umayya, c'était son ami. Ils étaient ensemble tous les deux en train de discuter. Umayr ibn Wahb dit à Safwan, ah, si quelqu'un prend en charge ma famille et mes filles, j'irai jusqu'à Mohammed et je le tuerai devant ses compagnons. Safwan lui dit, c'est moi qui prends en charge ta famille. C'était un homme riche, Safwan. Il dit, vas-y, fais le nécessaire et moi je m'occupe de tout. Si jamais tu ne reviens pas, bah, c'est moi qui prends en charge ta famille. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait Umayr ibn Wahb? Celui-là qui est devenu un grand compagnon par la suite. Il prend son épée, il met du venin, hein, du poison, et il va jusqu'à Médine. Pourquoi il vient à Médine? Pour lui, c'est pas pour tuer le prophète, mais pour aller chercher le prisonnier de guerre, son prisonnier de guerre, son frère ou son fils, il arrive à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar le voit. Il voit avec son épée. Omar n'était pas. Il était inquiet. Il vient le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis. Il dit laisse-le. Il le suit quand même, Omar, il regarde. Et Omar lui dit, qu'est-ce que tu fais avec ton épée? Regardez les épées, ça ne sert à rien les épées parce que vous nous avez vaincus pendant la bataille de Badr. Il dit tabbalaha min suuf. Nos épées n'ont aucune valeur parce que vous nous avez battus pendant la bataille de Badr. Juste pour eux. Il arrive devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il attend juste de trouver le moment pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, pourquoi tu es venu, Ya Omer? Pourquoi tu es là? Et moi, je suis venu pour négocier avec toi la libération de mon frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, Abou, Ya Omer, tu n'es pas venu pour ça. Je dis, si, je suis venu pour ça. Il dit, non, tu n'es pas venu pour ça. Tu étais assis à côté de la Kaaba, à tel endroit, avec Safwan ibn Umayya. Tu lui as dit, si quelqu'un prenait en charge mes filles, j'irai tuer le prophète, n'est-ce pas? Tu es rentré chez toi, tu as mis du poison sur cette épée-là. C'est Jibril qui m'a informé de tout ça. Et là, Omar, qu'est-ce qu'il dit? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wallahi ma kana ma'ana min ahad. Par Allah, il n'y avait personne avec nous. C'est un secret bien gardé entre moi et Safwan. Si toi tu le connais, ashhadu an la ilaha illallah. Et il revient à la Mecque pour se débarrasser de quelqu'un et revient musulman. Il s'installe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là on comprend pourquoi Omer, il va chercher Safwan. Ouais, c'est son ami. Hein. Vous voyez un peu, Safwan n'est pas devenu musulman par la suite. Mais Omer est devenu musulman. Donc il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, laisse-moi partir chercher Safwan et pardonne-lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, vas-y, fais ammana, sallallahu alayhi wa sallam. Et Umayr dit, Ya Rasulallah, j'ai besoin d'un signe de ta part pour qu'il croit que je dis la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enlève amama. Il avait une amama, le turban, voilà. Il enlève amama, il lui dit, tiens, prends ma amama. Il l'a trouvé en train de prendre le bateau. Il était pratiquement, il y a Safwan. Il arrive, il rentre à la Mecque, il ne veut pas devenir musulman. Il dit, Ya Rasulallah, donne-moi 2 mois pour réfléchir. Je deviens musulman ou pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu as 4 mois, réfléchis. Thumma aslama Safwan. Safwan est devenu musulman par la suite. Et sa femme est devenue musulmane avant lui. Et quand il est devenu musulman, sa femme est devenue musulmane avant lui. Et lui est devenu musulman 2 ou 3 mois après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas refait de mariage. Il ne leur a pas dit, refaites le mariage. Parce qu'elle est devenue musulmane avant lui. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et il a reconduit le mariage qu'ils avaient avant. D'accord? Imaginons que vous avez une chrétienne et un chrétien qui deviennent musulmans. Que la femme devienne musulmane avant son mari et que elle attend son mari parce que quand elle devient musulmane, il ne faut pas qu'il l'approche, n'est-ce pas? Parce qu'un homme non musulman ne peut pas s'approcher d'une femme musulmane. Elle l'attend. Les savants, ils disent, elle l'attend. Elle peut l'attendre 1 an, 2 ans. Et quand il devient musulman, lui, ben, ils sont mariés par leur mariage initial. On n'a pas besoin de leur faire un mariage. Hein? Le mariage initial. Et pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Sa femme est devenue musulmane avant lui. Il ne l'a pas touché. Elle ne l'a pas laissé toucher parce que c'est haram. Mais quand il est devenu musulman, ben, il est revenu avec sa femme. Et le premier mariage était... Vous voyez un peu comment de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut aussi déduire les hakams. وكان فضالة رجلا جريءا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتله وهو في الطواف. فضالة aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire tawaf, entouré bien sûr. Il y en a un qui s'est glissé, armé. Il voulait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Fudala. Et voit ça, il regarde comme ça, il dit, Fadala, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, rien. Fadala, il informe, t'es venu, il lui donne des détails de son plan. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa muhammad rasulullah. Donc, deuxième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une khutbah. حمد الله وأثنى عليه ومجده. Il fait le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, il sanctifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il dit, أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. Ô gens, Allah a sacralisé la Mecque le jour de la création des cieux et de la terre. Depuis le début de la création, Allah a sacralisé cet endroit-là. فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. C'est une terre sacrée par la sacralité d'Allah jusqu'au jour dernier. فَلَا يَحِلُّ لِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا. Il n'est pas autorisé à un musulman qui croit en Dieu et au jour dernier de tuer une âme là-bas. أَوْ يَعْرُضَ بِهَا شَجَرًا. Ou arracher un arbre. فَإِنْ أَحَدٌ ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ici l'un vous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la guerre à la Mecque, il reprend parce que le prophète صلى الله عليه وسلم Allah lui a donné une autorisation que pour lui et pour un jour. أحل لها الله ساعة, il a dit. Et si quelqu'un vous dit même le prophète l'a fait, فقولوا إن الله أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. Vous ne recevez pas la révélation, n'est-ce pas? Le prophète a reçu une révélation et Allah l'a autorisé, lui, mais pas tout le temps. Une heure, cette journée-là uniquement, mais pas pour vous. Donc, la Mecque reste un endroit sacré, haram. On ne tue pas à la mer, on ne coupe pas les arbres. وإنما حلت لي ساعة من نهار ساعة من نهار. Pour moi Allah me l'a donné pour une heure de jour. Et maintenant elle est redevenue sacrée comme avant. كحرمتها من أمس. فليبلغ الشاهد الغائب. Que celui qui est là, qui assiste, passe l'information à celui qui n'est pas là. ولا يعرض شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته. Quand tu es à la Mecque, tu trouves quelque chose par terre, tu ne la prends pas. Tu ne prends pas ce qu'il y a par terre, ni à la Mecque, ni à Médine, même si c'est 1000 euros. Tu ne prends pas ce qu'il y a par terre à la Mecque. D'accord ? ولا تلتقط ساقطته. Ça, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلا من عرفه. Maintenant, si tu peux dire, je prends, me dis, quelqu'un a perdu ça, quelqu'un a perdu ça, arrafah, c'est-à-dire tu cries, mais si tu doutes, tu sais, ne prends pas cette responsabilité, laisse quelqu'un d'autre prendre cette responsabilité. D'accord ? ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها. فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر. Donc, ولا يختلى خلاله العشب. Les plantes, vous n'arrachez pas les plantes. Et l'Abbas il dit à Rasulallah, nous avons besoin parfois de certaines plantes, l'ifrit par exemple, pour allumer le feu. Pourquoi ça, ça lui dit il l'ifrit, sauf cette plante là vous pouvez l'arracher. Maintenant l'Ansar, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté quelques jours à la Mecque, l'Ansar, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont dit, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé sa famille, a trouvé sa tribu, a trouvé sa ville natale, ses habitudes. Ah, la Mecque, c'est chez lui. Peut-être il va rester. Ils étaient en train de discuter entre eux, ils ont dit, est-ce que le prophète, vous croyez que le prophète va revenir avec nous? Ou peut-être il va rester ici? Ils étaient en train de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur Safa ou al-Marwa. Il était sur Safa
lever les mains, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Rafi'an yaday. Parmi les sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire les invocations, c'est lever les mains. Falamma farah, quand il a fini son dua, il vient les voir, ils étaient assis à côté. Il dit, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Qalou la shay, rien. Ya Rasulallah, rien, rien. Hein? Et il insiste, non, non, je veux savoir ce que vous étiez en train de dire. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont dit, il a dit, ma'adallah, ma'adallah. Hein? Qu'Allah me protège de cela. La vie est avec vous et la mort est avec vous. J'ai vécu avec vous 10 ans et je vais mourir avec vous. Je vais mourir à midi, je serai enterré à midi. Ça, c'est la. Sallallahu alayhi wa sallam. La fidélité, il ne va pas les laisser. C'est des gens qui l'ont soutenu. Médine est devenue la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, quand on parle prophète, on parle de Médine sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu là-bas, il est enterré là-bas. Alors qu'il a vécu 53 ans à la Mecque et 10 ans à Médine, mais il est médinois. Il se considérait comme médinois sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est la ville qui l'a accueilli, c'est la ville où il a propagé la religion musulmane. La reconnaissance, exactement. Le prophète Hassan n'était pas ingrat. Et on va parler d'un autre événement qui est encore plus touchant que celui-là, Inch'Allah, peut-être la prochaine fois. Oui.
Il s'est passé quoi à Taïf pendant tout ce temps?
À Taïf reste encore une ville non musulmane. À Taïf est habité par Thaqif, une tribu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura tout de suite après là, on va parler de Ghazwat Hunayn. C'est quoi Ghazwat Hunayn? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les 10 000 hommes, il va leur ajouter 2 000 hommes de Quraysh, ils vont partir à Taif pour conquérir Taif. Non, pas pour conquérir, parce que le Taif, Qabila Thaqif, qui habite à Taif, ils ont commencé à préparer, parce qu'ils se sont dit, le prophète il a fait la Mecque, ben, Taif c'est pas très très loin, nous sommes la cible. Ils commencent à se préparer, le prophète, il est parti chez eux. Il y a eu une grande bataille qui s'appelle Hunayn. Et cette bataille, subhanallah, le nombre de musulmans était beaucoup, beaucoup plus important que le nombre des Thaqifs. Ils étaient 4000 contre 12000. Vous imaginez? Et les musulmans se sont dit, bah, c'est bon, c'est gagné. Le match est gagné, c'est dans la poche. Hein? Nous, on a gagné 300 contre 1000. Mais comment on peut pas gagner 12000 contre 4000? Ah, ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. Et le jour de Hunayn, quand votre nombre important vous a plu, vous étiez fiers de votre nombre. C'est pas le nombre. L'islam, c'est pas le nombre. Vous pouvez être très nombreux, mais aucune valeur. Et vous pouvez être peu nombreux, mais vous jouez un rôle très très important. Hunayn, c'était un exemple, c'est un contre-exemple de Badr. Au début, Hunayn a été perdu. Les musulmans se sont dispersés. Le prophète Hassan est resté avec quelques compagnons. Tout le monde est parti. Ils l'ont laissé seul, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Allah a fait en sorte que les musulmans reviennent et ils ont gagné la guerre de Hunayn. Donc, à Taif, c'est Hunayn. Et on va en parler, inshallah, si on a le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé al-bay'ah, a demandé l'acte d'allégeance aux gens de la Mecque, ceux parmi eux qui sont devenus musulmans. Et donc, ils ont accepté et ils se sont réunis pour donner al-bay'ah. Et c'était ala jabal al-safa. Vous avez al-safa, vous avez Marwa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Al-safa c'est plus proche de la Kaaba que Marwa. Et donc il était là sur Safa et les gens sont passés pour donner allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'acte d'allégeance c'est as-sam'u wat-ta'a fi ma istata'a. Écouter et obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est possible. Rouya an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma faragha min bay'at ar-rijal akhadha fi bay'at an-nisa'. Quand les hommes ont fini, ben les femmes sont venues. وهو على الصفا
وعمر قاعد أسفل منه فالدبوب عمر أسفل فبايعهن بأمره ويبلغهن عنه فجاءت هند هند بنت عتبة لا فام دو أبو سفيان متنكرة ديجيزي que personne ne la reconnaisse parce qu'elle avait peur du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'elle a fait elle a ordonné qu'on tue Hamza فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا donnez-moi acte d'allégeance à condition de n'associer aucune autre divinité à Allah. Donc Omar, c'est lui qui donne l'acte de l'bay'a. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسرقن ne pas voler. فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح. Elle demande autorisation. Le prophète lui dit qu'il ne faut pas voler. Mais elle, elle avait l'habitude de voler chez son mari. Son mari, elle dit à Rasulallah, mon mari c'est un homme très radin, Abu Sufyan. Et si je ne prends pas en cachette, ben, j'ai rien. Est-ce que je peux prendre, ya Rasulallah? Faqala Rasulallah, fa'in ana asabtu min malihi hanat. Des pièces, c'est pas, je ne vais pas prendre là. Faqala Abu Sufyan, wa ma asabti fa huwa laki halal. Abu Sufyan il dit à sa femme, est-ce que tu as pris c'est pour toi halal? Fadahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et à ce moment-là, le prophète l'a reconnu. À ce moment-là, le prophète a reconnu que c'était Hind. Faqala wa innaki la Hind. Qalat na'am, fa'afu amma salafa ya Nabi Allah, afa Allahu anka. Hind, c'est toi Hind? Il dit oui, je suis Hind. Fa'afu amma salaf. Pardonne ce qui s'est passé. Afa Allahu anka. Elle aussi, elle a perdu son mari. Elle a perdu son père, son oncle, son frère et son fils pendant la bataille de Badr. Donc elle était ravie de la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle demande pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'afa anha sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa la yaznin. Wa la yaznin. Sariqa. Sariqa ou zin. Faqalat, elle maintenant toujours, awa taznin khurra. La femme libre peut commettre l'adultère, c'est impossible. Pour elle, c'est inconcevable. Qala wa la yaqtulna awladahun. Wa la yaqtulna awladahun. Que les femmes ne tuent pas leurs enfants. Elle dit, on a dit ce qu'elle dit. Rabbaynahum sigaran wa qateltuhum kibaran. Elle fait un petit clin d'œil pour le professeur Azam, lui a dit, nous les avons éduqués petits, vous les avez tués. Quand elle parle de son fils qui a été tué pendant la bataille de Badr. Elle fait un... Fa'antumuhum a'lam. Hamdallah, son fils a été tué pendant la bataille de Badr. Fa'dahika Abu Omar al-Khattab, il était assis, il a commencé à rigoler jusqu'à que... Il s'étale par terre. Parce que ça lui a plu ce geste-là de Hind. Fatabassama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Omar était en train de rigoler, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sourire. Faqala wa la yatina bi buhtan. Faqalat wallahi inna buhtan la amrun qabih. Hind c'était une femme de valeur, c'était une femme. Donc dans le bien elle était, dans le mal elle était. Vraiment dans le mal et dans le bien, Alhamdulillah, va devenir quelqu'un de très très bien par la suite. قالت وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. Et je sais que tu nous ordonnes que le bien et le bon comportement. فقال ولا يعصينك في معروف. Sans désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bien. فقالت والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك. Nous ne sommes pas venus ici pour te désobéir. Maintenant, le haq est apparu. J'ai le haq wa zahaq al-batil. Maintenant, c'est bon. On sait que tu es le prophète. On n'est pas là pour te désobéir. Elle rentre chez elle. Elle trouve son sanam. Vous avez chaque famille, mécoise, a un sanam chez elle. Un petit ilah, subhanallah. Les gens. une petite statue, puis on adorait, on faisait la prière devant. Elle la prend comme ça, elle jette par terre, elle dit, des années que tu me fais perdre le temps. Et Kunna ma'aka fi ghurur, nous étions avec toi, fi ghurur. Ghurur, c'est tromperie. Tu nous as trompé des années. Elle le jette. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما. Il est resté combien de temps? 19 jours صلى الله عليه وسلم à la Mecque. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a fait énormément de choses. Il a nettoyé la Kaaba, il a tracé des endroits, parce que Quraysh avait changé beaucoup de choses pour le Hajj. Ils n'ont pas gardé le Hajj d'Ibrahim, ils ont changé. Le prophète صلى الله عليه وسلم maintenant, il recommence, il a montré aux gens le Hajj, le vrai Hajj. Il va le faire l'année prochaine, il va le faire la 10e année. Regardez, le Hajj est obligatoire la 9e année. Qui fait le Hajj la 9e année? Abu Bakr al-Siddiq. C'est Abu Bakr qui vient, le guide du Hajj, Abu Bakr. Le Khoubat n'a pas fait la 9e année parce qu'il était occupé par recevoir toutes les délégations. Et la 10e année, le Khoubat fait Hajjatu al-Wada'. La seule et la dernière Hajj du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au خلال هذه الايام امر ابا اسيد الخزاعي فجدد انصاب الحرم. D'accord, les traces du Haram. Il a envoyé Saraya, ses compagnons, pour détruire les grandes idoles dans la région de la Mecque. Parce que dans chaque tribu juste à côté de la Mecque, ils ont des idoles. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit toutes les idoles de la Kaaba et ses alentours, il a envoyé des Khalid ibn Walid pour détruire Al-Uzza. Al-Uzza, l'Uzza c'est... L'Izza c'est quoi? L'Izza c'est la fierté, c'est la puissance. Al-Uzza, on appelait la dièse de la puissance. Khalid ibn Walid, il l'a détruit au Kanat binakhla. Donc, la plus grande statue, c'est Al-Uzza. C'était... Et Khalid ibn Walid a détruit, il était avec une petite brigade de 30 compagnons, ils ont détruit Al-Uzza. Ba'atha Amr ibn al-As, fi nafsi shahr, ila Suwa, wa la yaghoutha, wa ya'uqa, wa nasr. Suwa, c'est dans quel verset? Il y a un verset qui dit Souwa. Souwa, c'est une. Comme l'Uzza, comme l'Lat, comme Manat. Ça, c'est des dièses, oui.
Souwa, c'était pas une divinité à l'époque de Nuh?
Non, Nuh, c'était pas. Wala Yaroutha, wa Yaroutha, wa Nasra. Nuh, Souwa. C'est comme dans le verset.
Peut-être que c'est resté depuis l'époque de Nuh.
Oui, à mon avis, ça reste. Le nom est resté, c'est certain. Souwa.
Cher, parce que Al-Lat et Al-Uzza, c'est tiré des noms d'Allah. Al-Aziz,
oui, Al-Aziz, Al-Lat et Allah, oui.
Mais Manat, c'est tiré de quoi?
Allah wa'ala. D'accord. Allah wa'ala, Manat, je ne sais pas. Allah. Donc, Souwa', c'est un sanam, les Houdaïs, une tribu qui s'appelle les Houdaïs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on le détruise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après le Fath, beaucoup de tribus arabes ont compris que maintenant, la Mecque, c'est l'endroit le plus sacré. Maintenant, la Mecque est devenue musulmane, dans les mains des musulmans. Qu'est-ce qu'ont fait les autres tribus? Ben, ils sont venus petit à petit. Toutes les tribus autour de la Mecque sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces 19 jours, pour lui donner acte d'allégeance. Donc la conquête de la Mecque, en réalité, est devenue... Vraiment, là on n'est pas en train de parler des gens qui viennent de très loin, de Najd, de Riyad. Non, on est en train de parler juste de la Mecque et des alentours de la Mecque. Donc les tribus sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour devenir musulmans. Et donc cette bataille a ouvert les yeux de beaucoup beaucoup de personnes. Et à partir de cette bataille, maintenant on commence une autre phase dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bataille du Fath, c'était la plus grande bataille. Et à partir de là, il y aura la bataille de Hunayn. Il y aura, il y a les gens qui vont devenir musulmans. Vous avez la bataille de Tabuk qui va venir. Et après, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمنا رشدنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين